Bonjour, Raymond Richard au micro, Guy est à la technique et avec Chantal, nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question des agrocarburants. Alors vous me direz, le comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire, contre la faim, on voit pas très bien la relation avec les agrocarburants. Eh bien si, puisque une partie de la production agricole à grande échelle est destinée à ces produits. Donc, cela a peut-être des conséquences, et c'est ce qu'on va regarder d'un peu plus près avec Chantal. Alors, j'aimerais bien qu'on parle d'abord de ces agrocarburants, de cette chimie verte. C'est quoi la chimie verte ?
Alors, la chimie verte, c'est la production de polymères qui sont principalement utilisés dans tous les plastiques, donc tout ce qui est emballage, et que ce soit les petites bouteilles de lait pour le corps ou toutes sortes de bouteilles plastiques.
Donc là, si je comprends bien, on essaie déjà de remplacer le pétrole comme matière première de l'industrie chimique parce que finalement, on sait bien que les ressources en pétrole ne sont pas extensibles.
Voilà, et c'est la France donc a mis sur pied un programme d'investissement de plus de 2 milliards d'euros d'ici 2020, c'est-à-dire dans 6 ans, ce qui est vraiment très proche.
Tout de suite, oui.
Et donc c'est privé et public. L'investissement privé vient de sociétés comme Total, donc on connaît bien, et Sophie Protéol, mais aussi d'organismes publics tels que le Commissariat général à l'investissement et l'ADEME. L'ADEME est connue comme l'agence qui valide les inventions et innovations technologiques et industrielles. Bon, voilà le programme français, mais au Brésil, ils ont déjà commencé. Ils produisent.
C'est une réalité. Donc là, ce n'est pas simplement un projet.
Exactement.
Il y a les voitures qui roulent effectivement à l'éthanol, mais en plus, il y a de la chimie verte.
Il y a de la chimie verte, donc des polymères qui sont produits à partir de la canne à sucre. C'est la société Braskem, qui est connue et qui est en bourse. Et cette activité chimie verte, elle reconnaît que ça ne représente que 3% de son chiffre d'affaires.
Et là, on étudie encore.
On étudie, mais aussi c'est parce qu'ils sont limités. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, il y a encore un grand flou. Et par exemple, il est extrêmement difficile d'obtenir des brevets pour se protéger. Je parle d'un point de vue d'un industriel. Et il y a aussi des interdictions sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Donc là, ils sont un petit peu embêtés d'un point de vue juridique.
On peut pas faire ce qu'on veut, quoi.
Heureusement. Mais cette chimie verte, comme ils disent si bien, c'est un très bon argument de marketing. Alors, elle coûte très cher, ça leur coûte très cher. Ils reconnaissent que ce n'est pas du tout compétitif, mais que des sociétés comme Johnson & Johnson, comme L'Occitane, qui vend des produits comme le savon de Marseille et tout autre produit qui se disent bio et qui sont très fiers de mettre en avant un emballage recyclé, bio, respectueux de l'environnement, ça vient de Braskem, les polymères. Alors, si je vous donne.
Si, c'est de l'environnement, puisque c'est vert, mais
oui.
En fait.
Quel genre de verdure, je ne sais pas, puisque la fabrication de 200 000 tonnes de polyéthylène, soit 1,7% de la production totale du Brésil en canne à sucre.
Donc, c'est pas beaucoup.
Voilà, mais qui est cultivé sur 65 000 hectares.
Donc, des hectares qui sont enlevés à la production alimentaire quand même.
Oui, tout à fait. Et c'est là que le CCFD lance des grandes alertes contre cette industrie.
Cette soustraction qui enlève des terres aux paysans et qui.
Voilà, parce que l'agrocarburant à grande échelle, ça favorise les monocultures telles que le maïs, la canne à sucre, le colza, qui ont une destination première, c'est quand même l'alimentaire. Donc, on détourne l'alimentaire pour faire tourner.
Donc,
des
en gros,
moteurs.
On fait venir de l'Amérique latine, alors on fait venir de ce qu'il faut pour nourrir nos cochons. Ensuite, on fait venir aussi ce qu'il faut pour faire rouler les bagnoles. Et puis là-bas, les gens n'ont pas à manger.
Voilà, alors c'est le gros drame et c'est la grosse indignation représentée par le CCFD Terre Solidaire, par Oxfam et bien d'autres ONG qui dénoncent ces politiques d'agrocarburants qui se veulent écologiques et révolutionnaires. En fait, ont un impact désastreux sur l'accaparement des terres agricoles. On sait bien que les terres agricoles sont limitées, même sur le globe.
Oui, si on prend les bonnes terres, en plus on renvoie les gens dans les villes.
Voilà, alors déjà, on déplace les populations. Donc, autant d'aspects qui montrent qu'il n'y a plus de respect des droits fondamentaux de l'homme. Le droit à la vie est complètement bafoué.
Oui. Voilà, le problème, c'est quand sa concurrence, l'agriculture familiale et vivrière, entraîne l'accaparement des terres, les déplacements de population et les atteintes aux droits des personnes. Eh bien, effectivement, ça fait quand même. Et puis, alors, pollution, déforestation, non ?
Pollution, déforestation. Alors la déforestation, comme on sait bien, les forêts, c'est quand même
le
principal, vecteur d'absorption de CO2. Donc, si on défriche, il y a moins d'arbres, donc il y a moins d'absorption de CO2. Donc, ça, c'est un aspect négatif du biocarburant.
Pour la terre.
La terre aussi. Quand pour cultiver ces biocarburants, on a utilisé beaucoup d'engrais et beaucoup de pesticides, donc pollution de l'eau, appauvrissement des sols, donc l'impact sur l'environnement n'est pas aussi positif, n'est pas aussi vert qu'on se l'attendait. Et quant à l'impact social, il est complètement désastreux.
Oui, alors parce qu'en plus, si on retire des terres pour la production agricole, finalement, les produits agricoles qui restent vont devenir plus chers. Donc on a, pour les populations pauvres, d'une part, on les prive de leurs terres puisqu'on les chasse de leurs terres pour cultiver du palmier à huile ou de l'éthanol, enfin de la canne à sucre avec laquelle on va faire de l'éthanol. Et puis d'autres, donc ils peuvent, on leur dit si vous voulez, vous pouvez faire rouler vos bagnoles, mais ils n'en ont pas. Et d'autre part, ils ont le ventre vide. Donc c'est tout négatif.
Tout négatif. On appauvrit encore plus le pauvre et l'opposition nord-sud se creuse, quoi.
Donc cela ne profite pas aux populations. Et cela ne crée pas beaucoup d'emplois. Et puis dans une deuxième partie de l'émission, bien on verra, après la pause musicale, on verra peut-être les aspects positifs de ces biocarburants.
Oui,
ne voyons pas tout noir. Nous sommes toujours dans l'émission Terre solidaire avec Chantal Lobato qui nous parle de la chimie verte et des agrocarburants. Alors on a vu dans un premier temps que si le CCFD s'intéressait à cette question, c'est parce que cela a des impacts néfastes sur les productions agricoles puisque c'est à grande échelle et que cela concurrence la production alimentaire alors que la population augmente et qu'on a besoin de nourrir les hommes. Par contre, ça a peut-être des aspects positifs. Alors, je voudrais qu'on distingue, parce qu'il y a peut-être de l'avenir là-dedans.
Alors, il y a effectivement des aspects positifs. Le CCFD, quand il lance ses grandes alertes contre les agrocarburants, on a bien dit cultiver à grande échelle. Par contre, si on reste à petite échelle, si on reste au niveau du village, on a des exemples dans les pays du Sud où ça a permis aux paysans d'avoir accès à l'énergie. Donc, tout n'est pas mauvais, finalement. Donc, à petite échelle, l'agrocarburant reste une possibilité pour les populations d'avoir accès à une énergie peu coûteuse et d'être indépendant. Par contre,
donc,
il faut aussi...
il y a des aspects très positifs.
Positifs, voilà. Quand on reste, encore une fois, à petite échelle, tant que la société civile garde le contrôle de sa production et garde, bien sûr, sa terre. Après, il faut aussi noter qu'il y a... Dans les biocarburants, il y a eu plusieurs générations, parce que la société civile, les ONG se sont mobilisées. Il y a quand même eu beaucoup d'indignation contre les effets néfastes. Il faut voir aussi que maintenant, la technologie, elle évolue. Que la recherche se poursuit. Et donc, on assiste aussi à une deuxième génération de biocarburants qui, cette fois-ci, sont de source végétale, mais non plus destinés à l'alimentaire. C'est par exemple le résidu des feuilles, des déchets agricoles, forestiers ou des déchets de bois, donc qui va permettre par exemple la fabrication des pellettes, des granulés de bois pour le chauffage. Bon, donc ça
là, c'est positif même
c'est
pour
positif,
nous aussi.
Oui, parce que on travaille sur du résidu. Donc là, on ne cultive pas davantage, on n'accapare pas de terre, c'est du résidu végétal et de toute façon qui n'était pas destiné à l'alimentation. Donc, avant, on n'en faisait rien. Donc là, on le valorise.
On n'en faisait rien ou ça servait quand même pour engraisser les terres ou...
Oui, mais pas, par exemple,
pas tant que ça.
Pas tant que ça, parce que quand on met de sources végétales, c'est aussi bien les palettes de bois dans les zones industrielles, c'est aussi bien la sciure de bois qu'il y a dans les scieries. On n'utilisait pas ça pour bonifier la terre.
D'accord.
Par contre, c'est bien d'origine végétale, ce n'était pas destiné à l'alimentaire et on le valorise en fabriquant du pellet. Alors le pellet, c'est vrai que on parle beaucoup du poêle à pellet, mais ce
pour
qui
un
est
individu, c'est pas très intéressant, ça coûte
pour
cher.
Pour l'instant, ça reste quand même un investissement qui demande des retours sur investissement très longs. Alors que pour les collectivités, c'est beaucoup plus intéressant parce que le granulé en vrac, quand on regarde les prix, il est à 6 euros le kilowattheure quand l'électricité en est à presque 15 euros. Donc, c'est une énorme différence. Donc ça, mais le vrac, ça veut dire que c'est destiné aux collectivités, les hôpitaux, les écoles, tous les bâtiments publics, publics ou privés, mais de grosses
Donc
capacités,
là, il peut y
ou
avoir
les industries.
effectivement des
Donc là,
investissements. C'est un gisement d'emploi aussi qui peut être intéressant.
là, c'est intéressant et c'est positif. Ça a un impact positif aussi bien sur l'écologie que sur le social. Mais ça reste une exploitation récente qui ne demande qu'à se développer davantage. Et ensuite, on a aussi une troisième génération de biocarburants qui, alors elle est au niveau vraiment à soit en niche de marché, soit en totale recherche. C'est en niche, je dirais, c'est les biocarburants qui réutilisent, par exemple, les déchets des élevages porcins. C'est aussi les déchets ménagers, donc là, qui vont être traités par des systèmes de cogénération qui vont produire du gaz, qui va lui-même faire tourner des turbines pour produire de l'électricité.
Il y a déjà du chauffage urbain, on brûle des ordures, enfin bon, là on
exactement.
Voit que ce sont
Bon, ça c'est pas
des
nouveau.
Schémas. Si ce qui est nouveau, c'est en produire de l'électricité.
Voilà, ça c'est nouveau. Par contre, réutiliser les déchets ou soit d'élevage ou de déchets ménagers, c'est pas, on peut pas dire nouveau, mais ça reste limité dans des niches. Ça ne s'est pas répandu, ça reste limité comme
Mais est-ce que
développement.
ça n'est pas limité parce que, en fait, peut-être qu'EDF avait envie de garantir sa place parce que finalement, si un village, à la limite, prenons, nous sommes en Eure-et-Loir, un village Beauceron qui produit un certain nombre de produits agricoles avec les sous-produits. Bon, il y a la paille qui va peut-être servir pour l'aliment pour. En période de pénurie d'aliments pour le bétail ou je ne sais quoi, mais en fait on pourrait imaginer que un village peut être autonome sur le plan énergétique.
Totalement, et ça, là, il y a un point important, effectivement.
Donc là, ça veut dire
et
quelle société on veut.
On ne peut pas le prouver pour la France, mais je dirais on pourrait le prouver par la négative, c'est-à-dire qu'on voit la situation en Allemagne, au Danemark, là où il y a beaucoup d'industries pour le biocarburant troisième génération, on se rend compte qu'en France, il y a eu un frein, il y a eu une chape de plomb, parce que c'est extrêmement développé en Allemagne et dans toute l'Europe du Nord, Norvège, Danemark, où il y a des industries, où toutes les collectivités sont chauffées, où les industriels sont chauffés par des pellets et par le biocarburant, comme je viens de dire, qui utilise la biomasse, quoi. Et ça, on voit un développement extraordinaire dans le reste de l'Europe et on voit bien qu'en France, c'est un cas particulier.
Eh bien, merci Chantal de nous avoir expliqué ça. Donc, on voit que, pour résumer, le CCFD est hostile au biocarburant, surtout lorsque celui-ci se fait au détriment des terres vivrières pour que l'homme puisse manger et vivre. Et à tous, je dis bonne semaine.